Eh bien, Jérôme Alphonse, bonjour.
Bonjour.
On est dans votre domaine en lisière de forêt, qui donne un côté aussi très panoramique sur le Royan-Vercors et Colombes-Laval. Une miellerie dont vous assurez le fonctionnement. Actuellement, c'est une miellerie, on peut dire, production qui se situe uniquement sur votre secteur au niveau du domicile, ou vous évoluez un petit peu plus largement ?
En fait, on a un bâtiment, donc j'ai commencé il y a quelques années ici chez moi, donc en haut des coteaux. Mais maintenant, on est deux, on est installé avec ma femme, et du coup, on a loué un bâtiment à Saint-Thomas-en-Royans, au bord de la route, parce que pour nous, c'est beaucoup plus simple pour travailler, quoi. Donc un bâtiment plus conséquent et beaucoup plus pratique, dans lequel on a aménagé un espace de miellerie, un espace atelier pour les ruches.
Alors, depuis combien de temps maintenant vous êtes dans cette profession d'apiculteur ?
Donc en fait, moi j'ai commencé environ entre 2005 et 2007, j'ai pris pas mal de ruches. Je suis véritablement installé comme apiculteur professionnel, donc à plus de 200 ruches depuis 2009. Et l'année dernière, donc on a fait encore un accroissement, ma femme s'est installée avec moi. Donc maintenant, nous on travaille à peu près avec 400 ruches quoi, en saison. Voilà.
Alors vous évoluez, vous dites donc sur Saint-Thomas, un petit peu autour, ça concerne globalement l'ensemble du Royan ?
Alors moi j'ai une démarche un peu spéciale en apiculture. Normalement les apiculteurs qui travaillent beaucoup de ruches transhument beaucoup pour essentiellement pour faire démarrer les ruches plus tôt, donc ils hivernent plutôt dans le sud, donc dans les secteurs Salon de Provence, Marseille jusque Toulon. Et ensuite, ils remontent sur les floraisons, au fur et à mesure des floraisons. Bon, moi, j'ai décidé dès le début d'arriver à trouver un équilibre économique sans faire ces grands déplacements. Donc, mon secteur de travail, c'est essentiellement le Royan. Donc, actuellement, pour le moment, enfin, à cette date du printemps, toutes mes ruches sont dans le Royan. Et ensuite, je vais profiter de la miellée qui va avoir lieu en juillet en montagne. Et donc là, je vais monter sur le plateau du Vercors. Et en même temps, en juillet, je vais aller à la Lavande et donc dans le Diois pour rester Vercors. Donc nous, on essaye de travailler localement et faire un petit peu le tour du Vercors pour avoir une gamme de miel. Et c'est tout, on ne va pas plus loin.
Déjà, en fait, c'est des saisons qui succèdent sur les Piémonts. On peut dire que ça s'organise de manière régulière.
Oui, ah oui, tout à fait. Donc là, en ce moment, on est au mois d'avril. On a un mois d'avril qui est absolument exceptionnel. On a une première miellée qui a lieu toutes les années entre début avril et fin avril. Donc ça, c'est une miellée qui est difficile à... qui ne produit pas vraiment du miel, mais qui alimente beaucoup les ruches et donc elle se développe. Et ensuite, ce qui se passe sur le secteur, c'est toujours la même chose. Donc on a une belle miellée en juin qui est essentiellement autour des tilleuls. Et après ça, la plaine est complètement sèche et donc il faut monter en altitude ou retomber sur des cultures comme la lavande. Donc en juillet, on a une miellée de montagne et une miellée de lavande. Il y a également, dans la même période, une miellée de châtaigniers, mais pour ça, il faut se déplacer. Donc les châtaigniers les plus proches pour nous, de manière conséquente, c'est le plateau de Chambaran. Donc on y va parfois, là.
On peut dire que globalement, malgré des intempéries, c'est assez stable au fil des saisons, ou ça vous demande des fois de vous adapter de manière un peu conséquente ?
Alors, les dates sont fixes. Par contre, depuis que je pratique l'apiculture, on est dans des aléas qui sont beaucoup plus... Enfin, c'est ce que me disent les gens expérimentés, on est dans des aléas beaucoup plus importants qu'avant. On peut dire qu'avant, il y avait une saison de mauvaise sur trois. Bon, maintenant, mauvaise au sens où ça ne se passe pas comme prévu. Là, maintenant, toutes les années, il y a un aléa, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu ces dernières années. Bon, par exemple, on peut se souvenir qu'il y a 2 ans, il a neigé le 1er mai, donc le printemps a été complètement inexistant. Donc derrière, c'est difficile de se rattraper. L'année dernière, ça a été le scénario inverse. Il a fait très très chaud dès le départ et il s'est mis à pleuvoir au mois de juillet. Donc pareil, c'est un scénario qui n'est pas très favorable. Donc là, ça fait actuellement, jusqu'à maintenant, ça fait 3 années qu'on a une météo qui est globalement très changeante, mais surtout défavorable à des bonnes récoltes, quoi. Voilà.
Un phénomène récurrent pour vous, ça peut être comme un coup de grêle pour les arboriculteurs, ça peut être synonyme aussi de catastrophe.
Ah oui, tout à fait. Donc par exemple, donc il y a 2 ans, il n'y a pas eu de printemps, donc ça veut dire pas du tout de développement de ruches. Donc derrière, on peut pas vraiment faire des seins, on peut pas produire beaucoup puisque les abeilles sont pas beaucoup développées. Elles ont un peu plus de mal à récolter et bien sûr, on n'a pas de récolte de miel puisque le printemps est froid. Voilà. L'année dernière, le mois de juillet a été très froid et très changeant. Donc par exemple, la lavande, pour nous, ça a été favorable dans le secteur où on était. Donc il y a eu des orages, c'est favorable. Mais par exemple, en montagne, on a eu du mal à faire du miel de montagne puisque au 15 juillet, il a fait froid. Et pareil pour la miellerie de châtaignier, elle s'est arrêtée très rapidement. Donc c'est des aléas climatiques qui font que les récoltes sont loin d'être maximales, mais vraiment très très loin, quoi. Voilà.
En miel, vous évoquez la lavande, châtaignier. Mmh. Quels sont, on peut dire, le panorama de ce que vous pouvez produire ?
Eh bien, en fait, nous, on produit le maximum de ce qui est possible de faire dans le secteur. Donc, dans le secteur, on peut faire un tout de fleurs à base de tilleul au mois de juin. On peut faire, si on va dans les Chambarans, un châtaignier au mois de juillet. On peut faire un miel de montagne en juillet et un miel de lavande en zone de lavande. Donc, il faut y aller spécialement. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut faire en termes de miel. Hein. Après, sinon, il faut aller beaucoup plus loin. Quoi.
Au niveau de votre flotte de ruches, j'allais dire, on peut dire que c'est... Vous arrivez à conserver quand même un petit peu la même quantité ou c'est difficile? Enfin, vous accrochez pour essayer de...
Oui, alors en fait, bon, moi, j'ai débuté ma carrière d'apiculture. Comme je voulais peu transhumer, enfin, pas faire des très grands déplacements. Et puis j'ai commencé tard, sans reprendre quelque chose d'existant. J'ai créé dans le voyant, ça n'existait pas vraiment, une activité apicole professionnelle très développée. J'ai pas repris quelque chose de quelqu'un, voilà. Donc, pour produire du miel, il faut quand même avoir beaucoup de connaissances sur les secteurs, quand est-ce que ça miel, où est-ce qu'il vaut mieux être. Donc, ça nécessite, comment dire, pas mal de saisons derrière soi, que je n'avais pas. Donc, moi, dès le départ, j'ai décidé de plutôt vivre de la vente d'abeilles. Et ça, par contre, c'est une activité qui peut être développée, qui est assez régulière. Hein. Bon, par exemple, s'il y a une rentrée de miel qui est relativement faible, on apporte du sirop, ça compense. Et on arrive donc, sans avoir posséder un gros historique, à produire quand même de manière correcte. Donc moi je suis habitué à faire beaucoup d'élevage. Donc c'est pour ça qu'année après année je survis bien. Mais c'est vrai qu'on a du mal à avoir un taux de survie qui est très bon quoi. C'est très difficile. Surtout quand on fait beaucoup d'élevage parce qu'on a tendance à beaucoup perturber les ruches. Je dirais en miel on a quand même plus de facilité à avoir des abeilles qui survivent. Mais malgré tout ça devient de plus en plus difficile.
Effectivement, tous ces phénomènes météo qui prennent des contours des fois un peu particuliers au fil des saisons de manière surprenante. Et puis également des phénomènes aussi qui semblent avoir perturbé certains de vos confrères, on peut dire, dans le monde de l'apiculture, des pertes foudroyantes de ruches.
Alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que dans la région, toute l'agriculture a un peu la même image, c'est quand même, on est dans une région assez douce au niveau traitement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Bon, il faut vraiment s'éloigner pour commencer à trouver des gens qui traitent de manière très intensive. Il y a quelques personnes peut-être qui traitent un peu plus que les autres. Mais globalement, on est dans une région où l'agriculture est douce. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas beaucoup traiter. Les apiculteurs qui ont des ruches, eh ben, c'est comme les agriculteurs d'ici. Ils essayent de ne pas beaucoup traiter. Et donc on a beaucoup de gens dans le secteur qui ne traitent pas beaucoup, voire pas du tout. Et bon, malheureusement, en apiculture, on a un fléau. Enfin, franchement, il faut l'appeler fléau. En fait, depuis qu'on a eu ces pertes cet hiver... Je cherche le bon terme, et le bon terme, je crois que c'est fléau. C'est un peu comme si on avait la peste au Moyen-Âge sans avoir les médicaments pour la soigner, quoi. Voilà. Donc, sauf que là, on a quand même des moyens de lutte. Donc, ce fléau, en l'occurrence, c'est le varroa. C'est un parasite qui s'est répandu dans le monde entier entre 1963 et aujourd'hui. Et en fait, il s'est déplacé avec le commerce mondial des fruits, en fait. Enfin, des fruits et des légumes. Enfin, il s'est déplacé par le transport maritime. Et donc il a envahi pratiquement tous les pays, à part quelques cas isolés. Donc nous en France, on l'a depuis 1983. Et selon les années, c'est plus ou moins virulent. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les abeilles, mais qui connaissent la noix, ça peut être par exemple la mouche du brou, c'est la même chose. C'est une mouche qui est arrivée par le transport humain. La mouche de l'olivier, voilà, c'est des choses tout à fait comparables. Et il y a des phénomènes. Disons que d'année en année, on est à peu près constant. Au niveau lutte, si on a une méthode de lutte qui fonctionne, elle va fonctionner. Et puis certaines années, elle ne va pas fonctionner du tout. Et donc c'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que les méthodes de lutte douce, on va dire, où on essaye d'utiliser le moins de chimie possible, voire pas du tout, fonctionnent la plupart des années, puis l'année dernière ça n'a pas marché. Mais alors vraiment pas du tout, pour une conjugaison de facteurs qui a été que bon, les varrois ont voulu se développer comme d'habitude, mais surtout il y a eu une saison extrêmement chaude, et donc il y a eu des redéveloppements de population du varrois qui n'étaient pas attendus par les apiculteurs, et donc on s'est retrouvé avec des infestations extrêmement élevées, très tardivement, ce qui n'existe pas d'habitude. D'habitude, on lutte au mois d'août, on réduit les populations de varroa. Donc les abeilles se libèrent de ce parasite, donc c'est une petite tique en fait, donc elles en ont beaucoup moins. On les libère en août par une lutte, et puis ensuite le froid arrive rapidement, ils ne se redéveloppent pas. L'année dernière, on a tous fait la même chose, on a fait ce qu'on avait à faire en août, ou rien éventuellement, ça peut aussi suffire parfois. Sauf que là, il y a eu un développement de la saison très important, et du coup, il y a beaucoup de ruches qui sont retrouvées envahies d'un seul coup. Alors ça, c'est le premier facteur. On a un second facteur qui est arrivé dans le Royan, qui est particulier au Royan. Enfin, dans le zone Royan, il y a sûrement d'autres zones comme ça. Hein. C'est qu'ici, on a une mêlée de lierre. Il y a beaucoup de lierre, énormément. Ce qui est très bon, hein, le lierre, c'est une plante sauvage qui est magnifique. Elle est tout à fait nécessaire aux abeilles. Mais quand c'est trop important, le lierre, ça a un effet très négatif sur les abeilles. Ça les empêche de se mettre en hivernage correctement. Et là, moi, j'ai retrouvé des ruches, c'était des blocs de miel de lierre. Mais vraiment, on ne peut pas dire autrement. Et d'ailleurs, l'année dernière, normalement, on donne toujours un petit peu de sirop à l'automne. J'en ai pas donné du tout. Donc on a eu une conjugaison de facteurs extrêmement importante localement qui a fait qu'on a eu beaucoup de pertes. Bon, après, il faut aussi savoir que des pertes comme on a eu, il y en a eu partout en France. Partout où cette météo a été, donc c'était pratiquement partout, en tout cas dans la partie sud de la France, partout où cette météo a été très inattendue et très chaude dans la saison, eh ben on a eu ces pertes-là. Il y a beaucoup d'apiculteurs qui ont perdu des ruches et dans des secteurs complètement sauvages. Ça, il n'y a pas de problème, ouais.
C'est-à-dire que c'est finalement une mauvaise conjugaison de facteurs qui a fait ce mauvais...
Oui, c'est tout la faute de l'homme quand même. C'est ça, moi, je voudrais quand même le dire. Parce que la météo, si elle est si changeante, eh ben, probablement que c'est le changement climatique. Parce que là, de toute façon, ce que nous, on vit, par exemple, on discute beaucoup avec les producteurs de lavande, ils vivent maintenant aussi une mauvaise année tous les 2 ans, alors qu'avant, ils les avaient tous les 10 ans. Et les parasites, ils arrivent, très clairement, ils sont arrivés par la main de l'homme, par le commerce mondial. Donc tout est d'origine, on va dire, humaine, mais ça reste quand même des facteurs naturels au final. Moi, j'ai perdu autant de ruches dans les ruchers qui sont situés, par exemple, dans la vallée de Chouranche, où il y a absolument zéro traitement, personne ne traite rien. J'ai perdu autant de ruches dans ces secteurs-là que dans un secteur comme la plaine d'Aubrive, où bon, il y a une plaine qui est traitée à coups de désherbants et puis d'autres saletés pour tuer les parasites des cultures. Hein. Donc j'ai les mêmes niveaux de perte, quoi. C'est tout à fait clair. Hein. Donc moi, voilà.
On peut dire que les abeilles peuvent sillonner loin autour de leur ruche.
En fait, une abeille récolte sur un... Bon, elle récolte pour elle pour butiner sur un rayon de 500 mètres à 1 km. Mais elles peuvent facilement voler jusqu'à 3 km sans aucun problème. Leur rayon d'action d'une ruche, c'est à peu près 3000 hectares. Mmh. 3000 hectares. Donc, une ruche posée au centre de la commune de Saint-Thomas, puisque c'est là où je suis, couvre 6 fois Saint-Thomas, quoi. Voilà, en surface. 6 fois la surface de la commune. Voilà.
Après, elles ont leur système aussi d'organisation pour se déplacer et exploiter un petit peu les différentes zones.
Oui, en fait, la particularité des abeilles, c'est qu'elles occupent à différents stades de leur vie tous les métiers. Hein. Et donc, à un moment, après 20 jours après la naissance, l'abeille devient butineuse. À ce moment-là, elle sort de la ruche. Et donc, son rôle, c'est de ramener à la ruche 3 choses. Du nectar, donc c'est du sucre hein, qui sort des plantes. Du pollen, ce sont des protéines, et puis surtout de l'eau. Il faut absolument qu'elles ramènent de l'eau, parce qu'elles en ont beaucoup besoin. Donc pour ces 3 choses, leur rayon d'action, c'est à peu près 500 mètres à 1 km, un rayon efficace. Mais ça, elles sont capables de ramener, mais pour autant, il faut que ce soit disponible. Donc par exemple, en ce moment, il fait pratiquement 25 degrés, on est au mois d'avril, donc il y a beaucoup de plantes en fleurs, ben là, elles vont trouver du nectar et du pollen. Mais au mois d'août, 25 degrés, tout sera grillé, elles trouveront pratiquement plus rien. Donc elles ont un cycle qui est complètement calé sur celui des plantes. Alors c'est là qu'on a aussi quitté un petit peu la nature. Les apiculteurs ne sont pas du tout des entomologistes, mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des animaux sauvages. Parce que l'agriculture en général ne travaille pas avec des animaux sauvages. Je veux dire, on ne fait pas du lait avec des aurochs qui sont les ancêtres de la vache. Depuis longtemps, en apiculture, on a des démarches d'élevage. Il est évident que les démarches d'élevage, elles apportent un certain confort à l'apiculteur en permettant de récolter du miel dans de bonnes conditions hein, et d'en récolter de manière conséquente. Mais évidemment, elles ont des inconvénients. Donc on a certainement introduit aussi des fragilités au niveau de l'abeille, simplement en faisant des sélections.
Vous avez des ruches qui se portent bien, d'autres qui n'ont plus du tout une seule ruche. On peut dire aussi que, de manière très très localisée, il y a eu aussi peut-être des changements par l'environnement ou par l'homme.
Alors moi, en fait, je connais à peu près les apiculteurs. Enfin, surtout, j'ai discuté avec eux, donc je sais ce qu'ils ont fait dans les ruches. ils ont clairement, tous ceux qui ont perdu des ruches, pas fait les gestes que nous, dans la profession, on considère comme minimum pour tenir en vie. Après, ils n'ont peut-être pas envie de traiter les varroas, de les combattre et tout ça, et je comprends très bien. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un certain nombre de gestes à faire et de luttes à mettre en œuvre. Alors, ça peut être fait de manière chimique, ça peut être fait de manière biologique, ça, et tout existe. Hein. C'est plus ou moins complexe. Plus on va vers le biologique, plus c'est complexe, voire très complexe. C'est-à-dire, pratiquement, sur des très gros cheptels de plusieurs centaines de ruches, il y a certaines méthodes biologiques qui sont impossibles à faire parce qu'elles prennent trop de temps. On peut arriver à les maîtriser, mais ça prend beaucoup de temps. Et disons que ce qui est très difficile à comprendre et à admettre, c'est que plus le temps passe, plus il faut mettre d'énergie dans ces luttes et plus ça devient complexe. Mais là, clairement, les apiculteurs qui ont perdu dans la région, bon, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, on est professionnel à partir de 200 ruches. Je veux dire, maintenant, l'apiculture, si on ne consacre pas toute son énergie... moi, je me suis fait avoir aussi, en partie, sur certains ruchers, parce qu'à l'automne, je suis passé à autre chose, j'avais d'autres choses à faire. Et du coup, je n'ai pas vu venir certaines choses, et je me suis aussi fait avoir. J'ai aussi perdu des ruches, évidemment. Mais maintenant, c'est ça qui est très déplorable, c'est qu'on ne peut plus travailler sans rien mettre dans les ruches, ça ne fonctionne pas, sans intervenir. Ça ne marche plus, quoi, plus du tout.
Il faut s'adapter un petit peu à ces changements... plus en plus prégnant et assez, on peut dire, rapide quand même.
Surtout, ils sont rapides, voilà. Par exemple, on considère comme complètement normal d'être présent pour faire le vélage d'une vache. Bon, c'est quand même pas normal qu'un animal, il n'arrive pas à se reproduire tout seul. Enfin, on peut le voir comme ça. Bon, mais ça, personne dans la profession d'éleveur bovin considère que c'est anormal d'être à côté d'une vache quand elle vèle. Tout le monde dit, voilà, il va y avoir des vélages, donc il faut que je sois là pour tirer les veaux. Bon, c'est quand même, ça veut dire que la bête n'est pas capable de se reproduire toute seule. Bon, nous, en apiculture, on est plus... Comme c'est un élevage qui est très récent, les démarches d'élevage en apiculture n'ont que 150 ans. Jusqu'à il y a une centaine d'années, c'était considéré comme un animal sauvage. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui se mettent à l'apiculture considèrent que c'est un animal sauvage et qui va nous donner un fruit de son travail, en fait. C'est un peu ça qu'on voit. Mais ça viendrait à l'idée à personne de faire du lait avec autre chose que des vaches sélectionnées ou de planter des carottes sauvages récoltées dans la nature. Donc ce n'est plus l'abeille. De toute façon, ce n'est plus un animal sauvage. Quoi qu'on veuille faire, il y a des gens, des générations avant nous qui ont sélectionné, voilà. Donc déjà, elles ne se débrouillent plus toutes seules, ça c'est sûr. Mais en contrepartie, on a un fruit qui est quand même important. Je veux dire, une ruche qui fonctionne, elle peut faire 30 à 50 kilos de miel dans un environnement comme le nôtre. Mais la grande difficulté, c'est que l'environnement change trop vite aujourd'hui. Et pour les apiculteurs, les petits apiculteurs qui ont une trentaine de ruches, eh ben, c'est dommageable. Et pour les professionnels, le problème, c'est de trouver un équilibre économique, quoi. Parce qu'on n'arrive plus à produire des quantités importantes, quoi. Le pourcentage de personnes qui sont à l'aise en apiculture diminue chaque année. Et moi, j'ai plusieurs collègues qui ont déjà arrêté parce que... j'ai fait ma formation en 2006 ou 2007. On était trois au stage de formation du secteur. Les deux autres ont arrêté. Ils ont commencé, ils ont arrêté. Parce qu'ils n'arrivaient pas, ils ne sont pas arrivés à trouver un équilibre économique. On ne peut pas être trop idéaliste, ça ne fonctionne pas. Mais je le suis moi-même. Moi, j'ai perdu des ruchers que cette année, je n'ai pas traité du tout. Donc, il y a des ruchers que je ne traite pas. Et évidemment, j'en ai perdu une grosse partie. Mais je me méfie. Donc, chaque année, j'ai une politique de traitement étagée. Il y en a que je traite beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Et j'essaye de fonctionner. Mais en fait, si je ne traite pas, ça ne fonctionne pas. Et ça me contrarie mon idéal, évidemment. Mais c'est bien net que ceux qu'on a bien traités correctement, on a donc... diminuer les populations de varroa, on n'a pas eu trop de problèmes. Les ruches, elles sont là, vous les voyez. On en a tout un tas comme ça, qui sont en train de récolter du miel maintenant. Mais faire tous ces gestes, c'est un peu contre nature. On ne va pas vers l'apiculture pour s'acharner sur des abeilles en permanence et être sûr qu'il n'y ait pas de parasitisme, quoi. Et malheureusement, c'est comme ça. Thank you. La totalité des gens qui se mettent à l'apiculture, pratiquement tous, c'est par choix idéologique, par choix de mode de vie. Donc moi, pourquoi j'ai pas repris quelque chose d'existant? Parce que je voulais vivre dans le Royan, et dans le Royan, ben, y avait rien d'existant. À proprement parler, de manière importante, je pouvais pas reprendre une structure, ça n'existait pas. Mais par contre, j'ai quand même créé quelque chose parce que je voulais vivre ici. Et donc la totalité des gens qui se mettent à l'apiculture poursuivent un idéal. Voilà. Et c'est ça qui fait que l'apiculture se meurt, c'est que maintenant, cet idéal se tape la tête contre un mur, hein, qui est le changement climatique. Le varroa, et puis parfois, si on est dans des zones de plaine, il y a d'autres difficultés. Mais ici, effectivement, il y a un ou deux secteurs, moi je sais qu'il ne faut pas y aller, parce qu'il y en a un ou deux qui traitent un peu trop. Mais si on évite ces deux, trois secteurs, on n'a pas, nous, de problème agricole à proprement parler. Mais par contre, il existe vraiment dans les plaines. Dans les plaines, on a vraiment parfois des ruchers qui meurent, empoisonnés directement, ça on le sait. Dans les plaines ou dans les montagnes, hein, c'est même... Là, le dernier affaire en date où c'est très clairement un produit... c'est l'Ariège, c'est-à-dire que les éleveurs ont traité les animaux à l'insecticide et cet insecticide s'est retrouvé dans les déjections des animaux et ça, ils ont couvert les montagnes de l'Ariège de déjections empoisonnées insecticides et ça a tué pas mal de ruches, quoi. Et ça c'est très clair. Donc localement, il y a des phénomènes d'empoisonnement. Voilà, et c'est dommage parce que ça, autant le changement climatique et le varroa, bon, on peut rien faire, autant ça, on peut faire quelque chose, quoi. C'est très clair, oui.
Alors pour les transhumances, parfois, il faut zigzaguer entre ces problématiques.
Voilà, alors c'est une des raisons pour lesquelles moi je fais très peu de transhumance. Ça me permet, dans le secteur où je suis, de très bien connaître le secteur. J'ai deux, trois copains agriculteurs qui connaissent les pratiques d'à peu près tout le monde. Donc je sais qui traite quoi à quel moment exactement. Et c'est ce qui fait que dans le Royan, je suis très bien. Parce que le Royan, par exemple, il est beaucoup décrié par les apiculteurs parce qu'effectivement, on voit ces gars avec leurs pulvérisateurs et tout ça. Mais déjà, il faut savoir ce qu'il y a dans les pulvérisateurs. Il n'y a pas toujours de l'insecticide. Il peut parfois y avoir de la bouillie bordelaise, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément nocifs. Après, ces traitements sont à des périodes telles qu'on n'est pas forcément là à ce moment-là. Bon, par exemple, ils traitent beaucoup en été et à l'automne. Bon, moi, j'ai mes ruches qui sont encore en montagne à l'automne. Je redescends assez tardivement pour éviter de le noyer. Puis si le noyer, effectivement, on a ce qu'on pourrait considérer comme un gros inconvénient, comme le traitement. Par contre, la pratique des noyers fait qu'on a un volume de pissenlit absolument énorme dans le secteur. Et donc, le pissenlit, c'est l'une des plus belles plantes pour l'apiculture, pour les ruches, parce que c'est ce qui fait démarrer au printemps. Donc, grâce aux agriculteurs, on a une surface de pissenlit qui est extrêmement importante. Et du coup, c'est très, très favorable aux abeilles, quoi. C'est juste dommage qu'effectivement, s'ils fassent un traitement après, mais nous, si on nous empêche de traiter les ruches et qu'on les empêche de traiter les noyers, on a des problèmes, quoi. Tout le monde a des problèmes, quoi.
Voilà. Voilà, ce qui exige donc une bonne connaissance du milieu agricole et forestier local.
Voilà, voilà. Moi, je travaille avec les lavandiculteurs, c'est pareil. Les lavandiculteurs, ils sont amenés à traiter. Déjà, comme ils sont en zone de montagne, c'est très difficile de travailler les champs. Donc déjà, ils mettent du désherbant. Et puis, ils sont souvent amenés à traiter. Il faut très bien les connaître. Il faut savoir les campagnes de traitement qu'ils ont fait. Et puis, il faut être disponible pour eux. C'est-à-dire, s'ils nous disent qu'ils ont besoin de traiter, il faut être capable d'enlever les ruches, quoi. C'est à double sens. C'est tout un prêté pour un rendu, comment dire, voilà. Il faut que tout le monde puisse travailler, moi, je pense. En agriculture, c'est très important. On se partage, je veux dire, moi, avec mes ruches, je couvre la totalité du Royan, quoi. C'est très clair, j'ai des ruchettes partout. Vu qu'elles butinent chacune sur 3000 hectares, de toute façon, le Royan, je le couvre des milliers de fois. Hein. Il faut que ce territoire ne m'appartient pas. Il appartient à tout le monde. Et donc, je l'utilise. Il faut que les autres puissent l'utiliser. Mais évidemment, il faut qu'un agriculteur qui passe un désherbant, il ait conscience que s'il ne faut pas le passer en pleine chaleur, à un moment, il n'y a rien d'autre à boire. Parce que toutes les abeilles vont se jeter dessus. Pareil, quand on passe un insecticide, il ne faut pas le passer à n'importe quel moment. Mais ça, c'est comme moi, je ne vais pas aller mettre des ruches à 10 mètres d'une maison, et pourtant j'ai le droit. Je ne vais pas la mettre en bordure de champ pour gêner le gars qui va labourer, c'est la même chose. Pourtant j'ai parfaitement le droit, je veux dire. Mais c'est chacun, on se partage le territoire, et il faut vraiment que tout le monde puisse vivre sur le territoire, quoi. Et le Royan est quand même... Enfin, moi j'ai été bien accueilli en apiculture, globalement. Les agriculteurs, j'en ai pas mal qui me prêtent plein d'emplacements, ça se passe très bien, quoi. Voilà.
Vous pensez que des fois il y a des communications où les agriculteurs aussi appréhendent ces moments oui. assez sensibles pour l'abeille ?
Aujourd'hui, un agriculteur qui a beaucoup de surface, il ne peut pas, tel qu'il a hérité de l'exploitation, se séparer du maïs, par exemple. Par exemple, le cas du maïs est parfaitement net. Il y a des générations qui ont investi dans des arrosages. Le système d'arrosage nécessite un loyer, et donc les terres arrosées coûtent cher. Et la seule culture rentable là-dessus, c'est du maïs. Bon, ben aujourd'hui, du maïs, le faire sans désherbant, c'est quasiment impossible. Enfin, personne n'arrive à faire du maïs sans désherbant. Enfin, en tout cas, pas dans notre secteur. J'en connais pas, moi. Mais c'est peut-être possible, mais en tout cas, c'est pas le but. C'est une culture qui est conçue avec les produits. Elle est comme ça. Il faudrait tout revoir pour qu'ils ne soient pas obligés de faire du maïs, en fait, hein, si on voulait plus de désherbant du tout. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et ça, le gars qui hérite du système, vous hériteriez de ses terres à sa place, vous feriez pareil. Vous sortiriez vos rangs, vous mettriez des herbants, ou alors vous revendriez les terres parce qu'il n'y a pas d'autre choix, quoi. Je veux dire, il faut bien comprendre. C'est comme nous, on est obligé de lutter contre le varroa, on n'a pas de choix. Si on prend la liberté de ne pas faire cette lutte, on perd nos ruches. C'est simple. Si le gars ne désherbe pas son champ, il ne fait pas de maïs. En tout cas, il ne fait pas le volume suffisant pour rembourser l'arrosage. Donc on hérite d'années passées à... Le commerce mondial, c'est pareil. Hein. Qui peut faire quelque chose contre le commerce mondial, quoi. C'est comme ça, c'est ça qui déplace les parasites, et c'est très dommageable hein, pour l'équilibre biologique, mais on est victime de ça.
Un système de rendement, finalement, qui un peu conditionne tout ce côté un peu à flux tendu.
Complètement. En fait, la seule... Moi, j'ai 46 ans, et j'ai connu le Royan, où, quand j'étais petit, beaucoup de fermes ici vivaient en autarcie et fournissaient les restaurants du coin. Hein, et ils faisaient des cultures pour vendre en plus. Mais ils vivaient essentiellement de leur production. Et ils faisaient vivre les familles autour. Ça, c'est le seul système viable. Enfin, si on devait tout reconcevoir et repartir à zéro, je pense que le seul système valable serait qu'on revienne à une alimentation localisée. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je veux dire, toute production destinée à la vente en masse va générer des inconvénients. Il n'y a pas de production qui n'a pas d'inconvénients. Ce n'est pas possible. Du moment qu'il y a une masse, il y a forcément un déséquilibre écologique qui s'installe. Et aujourd'hui, les cultures sont conçues à base de chimie. Mais peu importe, je veux dire, le déséquilibre écologique, il est là, quoi. C'est très clair. Tandis que si on revenait à une agriculture vivrière, comme c'était le cas, mais il y a à peine 30 ans, enfin oui, c'est ça, enfin, il y a 40 ans, on va dire, si on veut être un petit peu pessimiste, il y a à peine 40 ans, les choses étaient en équilibre. Voilà, mais le monde a complètement changé, et maintenant, tenir des ruches sans intervenir sur le varroa, ce n'est pas possible. Faire tourner une ferme avec beaucoup de surface sans désherbant, aujourd'hui, ce n'est pas du tout possible, quoi.
Voilà, vous avez quelques ruches qui produisent actuellement. En ce moment, elles sont un petit peu en train de rapatrier du pissenlit.
Voilà, alors pour les meilleures d'entre elles, elles ramènent du nectar de pissenlit. Donc là, on est à l'étape où... Alors nous, on connaît toutes les fleurs par cœur. Donc là, on est à l'étape du merisier qui est fleuri. Donc on a les pruneliers et les aubépines qui ont fleuri. Maintenant, c'est les merisiers et les cerisiers. Et puis bientôt, on va avoir les autres fruitiers, donc les pommiers, tout ça. Donc là, pour celles qui sont hivernées dans le Royan, on n'arrive pas tellement à faire des miracles, hein, c'est quand même rude. Et donc là, elles commencent à peine à ramener un peu de nectar, alors que les herbes, il faut qu'elles atteignent une taille très importante pour commencer à stocker du nectar. Donc là, elles ont la taille limite. Donc moi, j'ai quelques hausses qui se remplissent en fait de nectar, enfin de miel. Donc si le beau temps se maintient la semaine prochaine, elles vont commencer à rentrer un peu plus, puisque de jour en jour, elles grossissent là. Voilà. Bon, dans le Royan, on ne compte pas sur la miel de printemps, parce que le Royan, c'est un territoire vraiment particulier, qui est orienté au nord, donc on est particulièrement froid et humide. C'est ce qui fait la richesse, mais c'est aussi ce qui fait que souvent, nous, on n'a pas de mielée de printemps qui rapporte quelque chose. La vraie mielée qui fonctionne toujours, c'est le mois de juin. Avant le mois de juin, on peut être garanti de rien, si ce n'est que les ruches vont se développer. Voilà.
Donc un laps de temps assez court quand même pour optimiser pour l'abeille au mois de juin, effectivement.
Ah oui, voilà. Tout à fait.
Alphonse, on peut donner un ordre d'idée de la production qui vous concerne dans votre miellerie installée à Saint-Thomas-en-Royans ?
Oui, donc on vend quelques centaines d'essaims et quelques tonnes de miel. Ces tonnes de miel, donc, soit on les met en pot et on vend les pots directement, donc dans les différentes épiceries de la région ainsi que les petits supermarchés. ou également le marché de Die, on fait le marché de Die. Soit on les transforme, donc on a plusieurs produits transformés, comme les pains d'épices, on fait une crème noix-miel. Puis là, on est en train de s'équiper maintenant pour faire du nougat. Voilà, parce que la transformation, c'est quelque chose de très agréable à faire. Et ça nous permet d'avoir toute une gamme de produits.
Avec la complicité, donc, comme vous me disiez, de votre épouse. Voilà. Donc, c'est un tandem, vous complétez bien dans l'aspect de l'agriculture.
Absolument. Moi, je faisais beaucoup d'élevage et je produisais du miel, mais j'avais un peu du mal à l'extraire, le mettre en pot, c'était pas ma tasse de thé. Elle fait de l'apiculture également, elle est apicultrice, elle sait faire tout ce que je sais faire, mais elle aime bien aussi pour la vie de famille travailler en miellerie où c'est des horaires plus stables. Et puis elle a envie aussi de valoriser au maximum ce miel qu'on fait, parce que en France, en fait, sont consommées 50 000 tonnes de miel et à peine 15 000 produits. Donc les gens, en général, la plupart du temps, mangent du miel importé. Bon, nous, on fait un miel du Vercors très local. On essaye de le vendre localement et uniquement ça. Et on le transforme pour maximiser notre revenu en travaillant que localement. Voilà.
Donc, de nombreuses façons aussi de transformer le miel. Après, ça, c'est un peu l'inspiration qui guide les différents produits que vous proposez à la vente.
Eh bien, en fait, oui. Et puis, le goût, en fait, il y a trois produits vraiment standards qu'on a. C'est les pains d'épices. Donc là, le pain d'épices, ben, elle le décline en plusieurs versions. Il y a au chocolat, elle fait des pains d'épices au raisin sec, nature, etc. Comme on est dans le pays de la noix, on a cherché à faire un produit base de noix-miel. Là, il y a une crème de noix-miel qui est absolument... c'est pas connu du tout, mais c'est un peu notre Nutella, mais totalement locale et uniquement avec des bons produits, hein. Et puis il y a le nougat qu'on peut faire également à base de noix, puisque le nougat, donc, c'est essentiellement du miel, des œufs et une amande. Nous, on va le faire à base de noix. Et comme ça, donc, on a une gamme de trois produits. Déjà, les réussir ces produits, c'est déjà complexe. Le nougat, c'est relativement complexe à faire. Bien cuire un pain d'épices, c'est quand même complexe. C'est un métier à part entière, en fait, hein. Donc nous, bon, comme on est nouvellement installés, on a une miellerie toute neuve. Et puis là, on est en train de s'équiper au niveau cuisine pour faire des produits transformés de qualité. Après, on reste dans des petites quantités. Nous, c'est quelques centaines de kilos par an. On ne va pas du tout monter une industrie autour de ça. Ça ne nous intéresse pas du tout, hein. Voilà.
Jérôme Alphonse, la miellerie, pour vous, il y a aussi un côté pédagogique que vous envisagez dans votre activité ?
Ah oui, tout à fait. Donc moi, mon grand plaisir, c'est de transmettre l'abeille, en fait, de favoriser l'installation de ruches et d'accompagner les gens qui veulent installer quelques ruches. Et donc, pour que ça soit efficace, j'organise 2 à 3 stages par an sur un week-end. Et là, j'ai des gens de tous les horizons qui viennent. Je leur montre le Bourg-Royan, ils en profitent pour faire un petit séjour, hein, en général. Et je leur explique les gestes de base et toutes les erreurs à ne pas commettre pour ne pas perdre de ruches. Et je dis toujours que quand on ne traite pas les ruches, une fois tous les 5 ans, on va tout perdre. Ouais. Et là, c'est ce qui s'est produit cette année. Voilà. Donc ça, c'est un grand plaisir. Moi, l'apiculture, c'est un mode de vie. Je ne cherche pas du tout aucun rendement. Je ne cherche pas de profit. C'est juste vivre quelques années auprès des abeilles et me faire beaucoup plaisir et rencontrer beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont attirés par ça parce que ça symbolise un mode de vie différent. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent soit prendre une retraite un petit peu active et s'occuper de ruches, soit même changer de vie, avoir quelques ruches, voilà.
Vous pouvez avoir soit des professionnels ou des amateurs désireux.
Non, moi, je ne fais pas d'enseignement professionnel, ça ne m'intéresse pas, parce que moi-même, je pense que l'apiculture professionnelle, à part le nombre de ruches, sinon, vive de l'abeille. C'est très bien, mais je pense que l'abeille mérite surtout d'être présente partout, et donc dans n'importe quel jardin, c'est surtout ça. Le monde professionnel, il y a d'autres gens pour enseigner ça, il y a des structures, moi, ce n'est pas ma cible du tout.
C'est envisageable pour un particulier de se mettre à l'apiculture
Ah ben, il n'y a aucun souci. Ouais. Le stage est fait pour ça, pour éviter que les gens perdent leurs abeilles, pour aussi pour découvrir. Donc moi j'en fais, il y a d'autres gens aussi qui en font en France maintenant, ça c'est pas mal généralisé. Il n'y a aucun souci, on peut mettre des ruches dans un jardin, il n'y a pas de problème, il faut se former quoi, ça c'est le point de départ. On ne prend pas une ruche comme on prend un petit chat quoi, c'est pas du tout pareil. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne voit pas. Voilà. Après en termes de limites, eh bien, il faut bien respecter le voisinage. Bon, le code rural indique 10 mètres de toute limite, ça c'est la règle générale un peu. Donc il suffit de se mettre à 10 mètres de sa haie, mais il faut quand même pas gêner les voisins. Donc il faut pas installer de ruches, je dirais, au centre d'un village ou mieux d'un lotissement. Ça c'est on engendre des gênes. Mais nous, en tout cas pour ce qui est du secteur, on a vraiment beaucoup de nature. On trouve des terrains relativement facilement. On peut mettre des ruches un peu de partout. Voilà. Il faut juste se former pour bien s'en occuper. Bon après il y a après quelques petites contraintes légales.
On s'attache aux abeilles. On peut dire qu'il y a un côté un peu familier qui s'installe ou.
Alors avec une colonie, non, tout simplement parce qu'une abeille vit à peu près en saison 40 jours. Donc quand vous regardez votre ruche deux fois de suite à 40 jours d'intervalle, ce n'est plus les mêmes abeilles. Donc c'est un peu court pour s'attacher. Par contre, on s'attache à l'ambiance des abeilles. Le fait de pratiquer l'apiculture nous ouvre les yeux sur le paysage. Donc moi, par exemple, je connais toutes les floraisons, je connais toutes les dates et ça donne un rythme à la vie, en fait, qu'on peut perdre par la vie moderne qu'on a ou... Ben maintenant, moi, en hiver, j'hiberne, hein, je grossis un peu, je bouge moins. En été, je maigre un petit peu, je sors dehors, voilà. Donc, je suis sur un rythme des saisons. Et c'est un rythme qu'on n'a pas quand on travaille dans un bureau, toujours la même température. Voilà, la neige est là, peu importe, non. En abeille, la neige est là, on ne bouge plus. Et le printemps est là, c'est la folie, on va de partout, voilà. Donc, on retrouve ce contact. Et moi, je pense que l'être humain a besoin de ce contact à la nature.
Et là, c'est véritablement le fil de la nature hein, qui compose votre
alors
métier.
Là, complètement. Mais véritablement, oui. Moi, par exemple, je me souviens des 5 saisons passées. Je sais s'il a fait beau, pas beau, à quel moment. Parce que c'est fondamental à la vie de l'abeille. Et comme moi, j'essaye de les entretenir, de les aider à vivre, ben, je suis tout ça, quoi. Voilà.
Merci, Jérôme Alphonse.
Merci.